Eh bien, nous, on s'en va faire le tour du Canada pour prendre des nouvelles queer francophones.
Transcontinent queer. Enjeux et réalités queer d'un océan à l'autre.
Bonjour tout le monde. Eh bien, notre discussion mensuelle sur les enjeux et les actualités queer et trans avec nos collègues d'un bout à l'autre du pays, ça revient aujourd'hui. Alors, deux de mes invités sont là. Dan Robichaud, qui est animateur de radio, artiste et activiste qu'on rejoint à Claire. Et Elisabeth Bruns, qu'on rejoint à Toronto, qui est coordonnatrice de l'engagement communautaire à Franco-Queer. Et on a aussi Rose-Eva Forge-Jenkins, qui est coordonnatrice de la programmation Comité Franco-Queer de l'Ouest à Edmonton. On va commencer avec toi, Dan, aujourd'hui. Les personnes qui vivent la dysphorie de genre et qui doivent trouver une façon de se vêtir pour mieux refléter leur expression ou leur affirmation de genre ne l'ont pas toujours très facile. Ah, il y a une ressource qui a vu le jour en 2022 chez vous, en Nouvelle-Écosse, et qui prend sa place dans nos communautés. Ça s'appelle le Transformation Closet. C'est quoi ça?
Oui, effectivement, c'est un programme qui a commencé l'an dernier, mais qui continue. C'est le placard de transformation, le Transformation Closet. C'est un programme qui est géré et hébergé sous l'Agence des santé sexuelle Nouvelle-Écosse, Nova Scotia Sexual Health, qui ont des bureaux à peu près partout dans la province.
Tu es en train de me dire que c'est gouvernemental, ça, j'avais pas lu ça.
Non, je pense que c'est une agence de bienfaisance,
ah,
là, dans le fond.
Ouais.
Et puis, c'est un programme où des gens de tout âge peuvent obtenir de l'équipement et des vêtements de confirmation de genre. Puis ça peut être juste des vêtements, des vrais vêtements, ça peut être des prothèses mammaires ou les vêtements compressifs, ce qu'on appelle les
Les
binders.
binders, oui.
Et puis, de tout vêtement qui peut aider à une personne à se sentir à l'aise dans son corps,
Est-ce
dans
qu'on
le
parle
fond.
de vêtements neufs ou des vêtements usagés ou les deux?
Les deux, on demande aux gens de faire des dons au bureau de l'agence autant qu'on veut faire savoir aux gens qui peuvent se rendre à n'importe quel bureau de l'agence de la Nouvelle-Écosse et demander ce service. Et puis depuis l'automne de 2023, l'année dernière, il y a un coordinateur qui a été embauché pour assurer la supervision du programme. C'est-à-dire qu'il y a une personne à temps plein qui s'occupe de gérer ce programme-là. Puis les gens peuvent accéder au programme en personne dans les bureaux de Sexual Health Nova Scotia ou même faire une commande en ligne. Ça fait que le programme a un site web où on peut remplir un formulaire et faire sa demande comme ça ou par email.
Et j'imagine que ce n'est pas trop cher non plus, parce qu'il faut savoir que beaucoup des personnes qui se trouvent dans ces situations-là n'ont aussi pas tant d'argent que ça à dépenser, hein.
Effectivement. Et bien qu'on parle point du prix dans les ressources qui sont disponibles, je suis certain que c'est destiné aux personnes qui ont peut-être des plus faibles revenus, mais c'est ouvert à tout le monde. Et ce qui est peut-être plus notable de ce programme-là, c'est que bien qu'il y a des programmes pour les jeunes, les 30 ans et moins ou les 25 ans et moins, c'est la première fois en Nouvelle-Écosse qu'on a un programme comme ça pour appuyer les gens de tout âge.
Moi, je serais curieux de savoir, je vais demander à mes deux autres participantes, Elisabeth et Rose-Eva, est-ce que ça existe chez vous, ce genre de ressources, et comment ça fonctionne?
Oui, merci, Denis. Je vais répondre
Oui,
pour moi,
vas-y.
mon point en Alberta à Edmonton spécifiquement. Donc, il y a le Pride Center of Edmonton qui ont un community closet et un programme d'échange de binder. Alors, le community closet ou t'sais, le garde-robe communautaire, c'est pour n'importe qui. T'sais, ils ont fait, c'est vraiment bien comment ils ont arrangé ça. On dirait comme si tu étais un magasin. Puis là, tu peux choisir t'sais, des vêtements qui sont usagés, que des personnes qui font une transition, qui veulent des vêtements qui vont confirmer leur genre. Ils ont accès à ces nouveaux vêtements-là. Alors, ça, c'est vraiment fantastique parce que c'est la façon que c'est organisé, tu sais, c'est pas, on dirait dans un magasin, ça fait beau, ça fait le fun, il y a des places où est-ce que tu peux aller te changer. Mais c'est gratuit. Et il y a aussi leur programme de Binder Exchange, où est-ce que c'est des personnes que, c'est peut-être qu'eux autres, ils n'ont plus besoin de leur binder, leur vêtement de compression qui peuvent, c'est qui vont donner, puis que là, d'autres personnes qui ont besoin peuvent aller regarder la sélection qui existe. Puis c'est ça, puisque nous autres, on est un organisme francophone, puis il y avait un jeune qui est venu me parler puis dire, tu sais, moi, je viens juste de déménager, où est-ce que à Alberta, je parle pas l'anglais, est-ce que tu pourrais faire la traduction pour moi? Alors moi, j'ai allé avec un jeune, on est allé au Pride Center pour aller trouver des vêtements de compression qui fonctionnaient pour lui. Malheureusement, il n'y avait pas une taille qui faisait. Donc, ils nous ont donné un petit certificat, une petite lettre pour aller à un magasin où est-ce qu'ils ont des vêtements de compression. Puis avec ce certificat-là qui dit, c'est cette personne va avoir accès à un vêtement de compression gratuit. Alors là, ça va être gratuit pour la personne, peut aller au magasin et trouver un vêtement qui fonctionne pour eux. Alors, c'était moi qui traduisais, c'était intéressant, tu sais, il y avait la personne qui gère le magasin, qui donnait des instructions dans la porte, tu sais, extérieur de la porte aux jeunes pour, tu sais, est-ce que ça fait comme ça? Est-ce que ça fait comme ça? Puis moi, je traduisais pour
Wow.
les deux. Puis, tu sais, après ça, le jeune, quand il est sorti avec un vêtement qui lui faisait, tu sais, la joie sur la face, c'est tellement, tu sais, c'est vraiment pour ça que je fais mon travail, parce que c'était quelque chose, que c'était un moment tellement touchant, tu sais, puis tout le monde, le fait que ce jeune pouvait avoir un vêtement qui fait tellement une différence pour lui, surtout parce que les vêtements de compression, si c'est pas une bonne taille, ça peut être dangereux, ça peut faire du mal. Alors, tu sais, ce jeune, c'est la manière qu'il m'a regardé, puis il a dit, oh, ben là, je peux respirer. Tu sais, ça faisait
Wow.
vraiment très
Mais,
exprimant.
mais vraiment, quel beau partage, Roséva. Merci beaucoup. Elisabeth, toi, tu as quelque chose à ajouter sur ça?
Ouais, ben, ce genre d'initiative-là existe aussi en Ontario. Juste dans la région de Toronto, il y a différents modèles. Il y a un groupe qui s'appelle Binders Out, qui est comme un collectif grassroots qui facilite l'échange de vêtements de compression entre des gens, comme tu disais, Roséva, qui en ont plus besoin et les personnes qui en ont besoin. Il y a aussi comme l'association étudiante LGBT des étudiants de l'Université de York, qui, elle, a comme une collaboration avec une boutique de vêtements affirmatifs du genre et puis qui parraine l'achat de vêtements affirmatifs, ce qui est cool. Il y a aussi récemment, à la bibliothèque de Bradford, donc juste un petit peu au nord de Toronto, une bibliothèque qui a ouvert comme un garde-robe de vêtements inclusifs que les gens peuvent utiliser au sein de la succursale. Alors, ouais, tout plein de belles initiatives. C'est beau de voir les choses comme ça
Puis
en
ça a
ville.
l'air bien, ça a l'air vraiment non stigmatisant aussi, hein, j'ai l'impression, ça que c'est bon. Ben écoute, il y a un deuxième sujet. On a parlé des choses, une belle nouvelle pour commencer, mais allons avec quelque chose d'un petit peu moins le fun. J'ai lu qu'il y avait une hausse de 93 %, Elisabeth, des crimes haineux. Les communautés LGBT, de LGBTQIA+, en font grandement partie. Ça, on parle de Toronto, en fait, ça, si j'ai bien lu. Comment on explique ça?
C'est une grosse question que tu poses, Marie.
J'ai toujours des bonnes grosses questions comme ça, mais on va t'aider. Ne t'en fais pas.
Ben, écoute, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais je dirais que ce qu'on observe, c'est que c'est lié à ce mouvement de la droite alternative, entre guillemets, de l'extrême droite, qui voit les droits LGBT, particulièrement la reconnaissance, la protection des droits des personnes trans, non binaires et non conformes de genre, comme un genre d'affront aux valeurs traditionnelles, comme une attaque sur la masculinité. Puis il y a tellement de désinformation et de mésinformation qui circulent sur Internet. On dirait que c'est comme dans des moments de difficulté économique, les gens cherchent un bouc émissaire, on voit comme la montée de ce populisme à travers le monde, puis comme un renvoi vers un âge d'or de valeurs traditionnelles, familiales, comme c'est-à-dire patriarcales. Puis là, il y a comme ce résultat, comme résultat, comme une panique des valeurs traditionnelles et puis qui vise son agression, sa violence contre nos communautés. Mais c'est pas juste comme des discours marginaux, comme c'est renforcé par des gens comme Doug Ford, comme Daniel Smith, comme Pierre Poilievre, comme ça circule vraiment dans le
Je
mainstream.
vais t'interrompre. Donc, Doug Ford, qui est le premier ministre de l'Ontario, Daniel Smith, premier ministre de l'Alberta, et Pierre Poilievre, qui veut devenir premier ministre du Canada, qui est chef du Parti conservateur. Je vais le spécifier pour les gens qui ne le savaient pas. Donc, oui, ces gens-là renforcent ce discours, intolérant, là.
Et puis ensuite, c'est pas étonnant quand ce di discours circule et dépeint les personnes trans et de genre divers comme étant dangereuses, comme étant quelque chose duquel on devrait protéger les enfants. C'est pas étonnant ensuite que les gens se sentent enhardis de passer à des actes haineux.
Est-ce que les policiers font assez pour protéger nos communautés? Et là, je sais que depuis un bout de temps qu'on dit que les relations ne sont pas toujours très bonnes entre la police et les communautés, surtout en Ontario. Est-ce que les policiers font assez ou devraient faire plus?
Mais c'est une question intéressante parce que je pense que dans beaucoup de cas, le moment où la police intervient, le crime présumé a déjà été commis, l'acte haineux a déjà été commis. Alors, c'est pas à ce moment-là que ça protège les victimes, le mal est fait. Et puis ensuite, des fois, le processus légal et juridique peut retraumatiser les victimes de ces actes. Et puis, en fin de compte, rétablit pas vraiment le sentiment de sécurité, alors atteint pas vraiment son objectif. Alors, je pense qu'au-delà de comme des interventions policières, ce qui faudrait, ce serait de prévenir ces actes haineux. Puis ça passe par l'éducation, que ce soit dans les écoles ou dans les milieux de vie. Ça passe par de la meilleure représentation de nos communautés dans les médias. Ça passe par le contrôle du contenu auquel on donne des plateformes sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour essayer de prévenir les actes haineux avant qu'ils aient lieu et avant de devoir impliquer la police et puis tout ce processus légal-là.
Roséva et Daniel, ça a l'air de quoi dans votre coin du monde? Roséva, vas-y.
Oui, ben justement, tu sais, quand Elisabeth parlait de, tu sais, la police, est-ce que c'est quelque chose qui nous aide? Tu sais, moi, ça m'a fait penser à, tu sais, l'année passée quand il y avait les manifestations contre les 1 Million Man March, tu sais, les personnes qui se manifestaient contre, tu sais, l'éducation, SOGI dans les écoles. Puis ça, c'était un bord de la rue, puis de l'autre bord, c'était les personnes qui faisaient les contre-manifestations, les personnes qui disaient, tu sais, on veut de la sécurité pour les jeunes queer et trans. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la police est arrivée, puis ils sont pas allés de notre bord, sont pas allés de l'autre bord, sont allés de notre bord. Puis tu sais, c'est comme, ben, nous autres, on fait une contre-manifestation et c'est de quoi qui parlait au monde, c'est quand nous autres on était là avec nos panneaux, c'est nos drapeaux, et je pense qu'ils ont allé harceler quelqu'un parce qu'il portait, c'est un masque de ski là pour protéger son identité. Alors c'était vraiment, tu sais, ça, je pense que ça continue. Quand tu avais parlé, Denis Martin, tu sais, ça fait longtemps que les polices, on sait que notre communauté, c'est pas la police qui nous protège, c'est nous. Alors, c'est la police, on a vu que clairement, tu sais, il y avait deux bords à choisir et ils sont venus nous harceler et pas l'autre bord, des personnes qui faisaient la manifestation. T'sais, contre les programmes de SOGI. Alors, c'est ça, c'est vraiment la sécurité, c'est comme Elisabeth a dit, c'est avec l'éducation, les personnes que c'est quelque chose qu'ils ne savent pas, donc leur réaction à quelque chose qu'ils ne savent pas, c'est la peur. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser pour que ça vienne quelque chose normalisé et ne pas aller vers la haine?
Rapidement, Daniel.
Je pense que, au moins, en Nouvelle-Écosse, la police le prend au sérieux quand il y a des actes haineux. Il y a un exemple qui s'est produit au mois de janvier lorsqu'un homme a profané un drapeau de la fierté à Lower Sackville, une banlieue d'Halifax. Et quand la police a enquêté l'acte, ils ont trouvé et saisi dans sa maison plusieurs armes à feu. Ça fait que je pense que ça montre que parfois c'est pas juste du théâtre, il peut vraiment avoir une menace sérieuse. L'homme a été arrêté, là. Disons que
Ouais,
l'homme a été arrêté.
j'ai vu ça dans les journaux, là. Je ne sais pas qu'aura lieu son procès ou autre chose.
Vous écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Transcontinent queer. Enjeux et réalités queer d'un océan à l'autre.
On retrouve Roséva Fogg-Jenkins, qui est coordonnatrice de programme Comité franco-queer de l'Ouest à Edmonton, Elisabeth Bruins, qui est coordonnatrice de l'engagement communautaire à franco-queer à Toronto, et notre artiste, activiste et animateur de radio, Dan Robichaud, qui est à Clare, en Nouvelle-Écosse. Roséva, c'est à toi que je vais lancer cette question-là. L'Alberta veut intervenir dans la cause en justice contre la Saskatchewan par rapport à sa loi sur les mineurs trans ou non-binaires à l'école. Ah là là, pourquoi l'Alberta veut se mêler de ça?
Oui, c'est quelque chose que, pour être honnête, j'ai de la misère à comprendre exactement comment que ça fonctionne parce que c'est des choses politiques, c'est des lois mises en place, puis c'est quelque chose, c'est vraiment pas ma force. Mais ce que je comprends, c'est que puisque la Saskatchewan veut, c'est veut que les. Ils ont une loi qu'ils veulent mettre en avant pour que les jeunes ne peuvent pas s'appeler un différent pronom. Aussi, ils se font appeler un différent pronom à l'école que les parents doivent savoir et avoir le consentement des parents. Et Danielle Smith, qui est la première ministre de l'Alberta, a utilisé sa disposition de dérogation pour empêcher que les lois fédérales puissent intervenir, alors que je pense, de ce que je comprends que ça veut dire, c'est que l'Alberta voudrait appuyer la Saskatchewan pour enlever ses droits pour les jeunes, puisque l'Alberta, eux aussi, veulent enlever les droits des jeunes queer et trans. Alors, c'est de ce que je comprends, mais si quelqu'un comprend mieux comment que ça fonctionne, s'il vous plaît, corrigez-moi.
Non, je pense que tu as très bien expliqué. Effectivement, l'Alberta veut s'impliquer parce qu'elle croit vraiment que c'est la défense de l'autonomie provinciale qui est là-dedans. Mais cela dit, Danielle Smith nous haït. Elle a fait des communautés queer ses boucs émissaires. Pourquoi qu'elle nous haït tant que ça?
Oui, c'est vraiment, c'est une très, très bonne question. Je voudrais bien savoir. Moi aussi,
Il
je
n'y a pas toujours
m'intéresserais.
de réponse aux questions, mais on peut en discuter, hein, c'est ça.
Oui, absolument. Puis c'est très intéressant parce que comme, je dis, quand elle a proposé les lois, pour enlever les droits des jeunes queer et trans pour, t'sais, pour être capable de s'identifier avec un différent pronom, le pronom choisi à l'école, pour enlever être capable d'avoir accès aux bloqueurs, d'hormones. Alors, c'est vraiment une attaque contre les jeunes queer et trans, mais ce qui était intéressant, c'est que comment qu'elle avait présenté, c'était comme si, oh, j'aime les jeunes queer et trans, je veux ici pour les aider. Alors, c'est vraiment intéressant qu'elle se présente comme si elle mettait ses mesures pour aider aux jeunes, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est vraiment contre eux. Alors, tu sais, je me demande, c'est comment longtemps qu'elle va faire semblant d'aimer les jeunes puis vouloir leur aider? Puis quand le masque de, tu sais, la vérité de qu'est-ce qu'elle fait, c'est d'enlever leurs droits, c'est quand que ça va vraiment plus. Tu sais, qu'elle va être plus honnête avec ses buts d'enlever le droit des jeunes queer et trans. Puis, il y a aussi des personnes qui ont, tu sais, quand qu'elle a annoncé ceci, ils se sont posé la question, ben, l'annonce qu'elle a faite, c'était la même journée qu'elle faisait une annonce que l'Alberta, on avait moins d'argent pour combattre les feux de forêt. Et les feux de forêt, c'est quelque chose qui augmente de plus en
Ah
plus.
ouais, mais c'est déjà parti la saison des feux de forêt chez vous, ça va vraiment pas bien là.
La neige, elle a fondu, puis tout de suite, on avait des feux de forêt. Alors, je pense, des théories que j'ai entendues, c'est que des personnes qui disent, ben, pour cacher ce qu'on, ce, son gouvernement ne fait, tu sais, elle gère pas bien l'argent, puis elle fait pas qu'est-ce que les gens veulent. Alors, c'est vraiment une façon de, comme, distraire de son but. C'est quelque chose qu'elle sait que les gens veulent, tu sais, vont parler, puis avoir plus la discussion sur ceci, au lieu de la façon dont son gouvernement est inutile.
Ouais, c'est un peu un écran de fumée, comme dirait l'autre. Alors, donc, il y a l'Alberta, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick qu'on nous aime pas pantoute. En Ontario, ça a l'air de quoi? Est-ce qu'on va avoir ce genre de façon de faire de la part de Doug Ford, Elisabeth?
Aux dernières nouvelles que j'avais lues, il prétendait qu'il n'allait pas suivre dans ces pas-là. Le ministère de l'Éducation de l'Ontario a dit qu'il n'allait pas mettre en place ce genre de politique, mais en même temps, il y a des discours quand même très, très intolérants à l'égard des jeunes trans et queer, comme quoi on veut défendre les droits des parents et puis que l'identité de genre, ça devrait dépendre des parents et tout ça. Donc, on ne sait jamais s'ils vont revenir sur ce qu'ils ont dit.
Oui, je vais rappeler les paroles d'une personne très sage qui participe régulièrement à cette discussion, qui est Arnaud Baudry, qui disait que, et c'est vrai, hein, le droit parental, ça n'existe pas. Il n'y a pas de loi qui reconnaît ça. C'est la responsabilité parentale. Je te lance la balle, Dan Robichaud. Je sais que toi, dans ta région, il y a le premier ministre de Nouveau-Brunswick qui est pas très, en fait, qui fait partie de ce groupe anti-queer ou anti-trans. Ça a l'air de quoi, là, dans les autres provinces, en Nouvelle-Écosse, entre autres?
En Nouvelle-Écosse, je ne sais pas, mais on semble qu'on est peut-être plus tolérant. On ne voit pas de campagne, parce que vraiment, là, c'est presque mené comme une campagne d'insérer ces drôles de politiques-là. Je peux vous dire qu'au niveau de la Nouvelle-Écosse et le gouvernement de la province de la Nouvelle-Écosse, le ministère de l'Éducation, non, si on en parle, c'est à huis clos, mais ça ne fait pas la une, ça ne fait pas parler non plus.
Bon, on va changer de sujet. Ça te revient à nouveau, Dan. Il y a eu un symposium sur les milieux d'affaires, sur l'inclusion de nos communautés. C'était organisé par la Chambre de commerce du LGBTQIA+ du Canada à Halifax. Ça a donné quoi, ça?
Oui, c'était le 26 mars dernier, puis c'était un symposium des affaires queer à Halifax. C'était plus ou moins un espace d'apprentissage et réseautage. Il y avait des panels, des discussions comme celle-ci, ainsi que des ateliers sur les finances, les ressources, même la discrimination qu'une entreprise qui s'affiche queer peut rencontrer. Puis, somme toute, c'était l'importance du réseautage qui a été soulignée.
Est-ce que, puis là, je pose la question à vous trois, peut-être que vous pouvez répondre à ça. Est-ce que peut-être que l'émancipation de nos communautés va peut-être pas passer nécessairement par les gouvernements, mais ça pourrait passer par le monde des affaires, parce qu'on voit que le EDI, là, l'équité, la diversité puis l'inclusion, ça marche dans beaucoup de compagnies. Je vois que tu veux réagir, Elisabeth, moi. Ouais.
Ben, on collabore souvent avec une organisation qui s'appelle Fierté au travail,
Oui.
qui vise à créer des milieux inclusifs dans les entreprises et les organisations. Et on voit à travers le travail qu'il y a quand même beaucoup de volonté dans le milieu des affaires de créer des environnements de travail plus inclusifs, ce qui est encourageant. Mais je suis pas 100% certaine que ça se traduise dans les faits. Quand on parle aux membres de notre communauté, ce qu'on entend, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de discrimination envers les personnes trans et non conformes dans le genre, dans le milieu du travail. Et puis, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de progrès à faire en ce qui a trait aux choses comme la couverture d'assurance maladie pour les transitions de genre ou l'accompagnement des employés dans la transition dans le milieu du travail, que ce soit le changement de nom, la transition sociale et toute la bureaucratie tu sais, des ressources humaines qui entourent ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour rendre les milieux de travail plus inclusifs.
En Alberta, on sait ce que le milieu des affaires, c'est un milieu qui est positif pour nos communautés?
Oui, c'est intéressant. Tu sais, je pense que c'est. Il y a des places où on voit comme Elisabeth a mentionné, la volonté. Mais c'est aussi, tu sais, ça. Je me rends craintive de comme, tu sais, quand tu parles de l'EDI, c'est, tu sais, les entreprises vont utiliser ce qui est important pour eux au moment. Alors, ça se peut que maintenant, EDI, c'est quelque chose qui est important, c'est trendy, c'est le fun. On va en parler, mais est-ce que ça va être pareil dans 2, 3 ans? Les besoins de la communauté vont rester pareils, mais ce qui est tu sais, à la mode peut-être va changer et ce qu'on a vraiment besoin, c'est quelque chose qui est ancré dans tu sais, quelque chose qui est vraiment stable tu sais, avec comment c'est fait, mise en pratique et les politiques, ça soit vraiment quelque chose qui est ancré. Parce que quand c'est des compagnies, tu sais, on sait que la culture de la compagnie, ça change, il y a beaucoup de changements, c'est vraiment dépendant de ce qui fait de l'argent. Puis, l'acceptation queer et trans, des fois, oui, maintenant, on voit que ça fait de l'argent, mais c'est pas toujours à long terme que ça va être quelque chose de rentable. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment savoir comment s'ancrer d'une façon vraiment, vraiment concrète, qu'on ne peut pas juste enlever nos droits quand c'est moins à la mode.
Voilà. Je voudrais terminer avec quelque chose qui m'a marqué. Je l'ai vu, c'est quand même pas récent. On en parlait déjà à l'automne, mais en Ontario, en fait à Toronto, le centre communautaire 519 Church vient en aide aux réfugiés queer. C'est surtout que le discours anti-immigration est aussi fort que le discours anti-queer. Comment ça se passe, ça, à Toronto, Elisabeth?
Ouais, le 519, le 519, comme tous les organismes qui servent les réfugiés, on a remarqué une augmentation vraiment accrue du nombre de personnes qui demandent l'asile au Canada. Et puis le 519 a servi plus de 8 000 réfugiés
8 000.
LGBT en 2023
Ouais.
contre 1 000 l'année précédente. Comme c'est une augmentation sans précédent. À Franco-Québec aussi, on sert les personnes francophones LGBT nouvellement arrivés. Nous aussi, on a vu cette augmentation absolument sans précédent de la demande. Puis, ben, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça, comme la réouverture des frontières après la COVID, la montée de la haine. Mais je pense que ce qui est important et ce que le 519 fait assez bien, c'est de s'organiser de façon créative pour répondre à cette demande. Donc, en février, le 519 a organisé une journée qui s'appelait Love is Action, donc l'amour, c'est l'action. Et puis, on accueillit au-dessus de 1 000 réfugiés LGBT en une seule journée. Alors, les ont aiguillés vers les organisations dont elles avaient besoin, leur ont donné des ressources. Alors, c'était assez impressionnant.
Il nous reste à peu près une petite minute et demie. Peut-être un petit mot sur comment ça se passe en Alberta, peut-être, Roséva?
Oui, donc c'est ça, en parlant aux autres organismes aussi, ils ont vu une augmentation de 300% des demandes d'asile. Alors, c'est quelque chose que, c'est ça, on voit vraiment, c'est une grosse crise. Puis moi, ce qui m'inquiète, c'est que on voit pas aux nouvelles, les gens sont, tu sais, peut-être cette nouvelle en Ontario, mais c'est que on voit pas comment est-ce qu'on va répondre à cette crise. C'est pas, on voit pas de l'action sur ceci. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin des nouvelles, que les gens sachent, qu'on se mobilise pour ceci.
Rapidement, dans 30 secondes.
En 30 secondes, je peux vous dire que oui, je sais qu'on a un programme, une association pour les réfugiés queer en Nouvelle-Écosse, mais avec 30 secondes, je n'avais pas le temps d'aller dépêcher le nom.
Ben, écoute, c'est pas grave. On va certainement revenir là-dessus parce que c'est un sujet de l'heure. Je voudrais vous remercier. Ça a été une discussion super intéressante de vous entendre. Roséva Fork-Jenkins, qui est coordonnatrice de programmation au Comité franco-queer de l'Ouest qu'on a rejoint à Edmonton. Elizabeth Brings, qui est coordonnatrice de l'engagement communautaire franco-queer Toronto, qu'on a rejoint donc à Toronto. Et Dan Robichaud, artiste, activiste, animateur de radio à Clare, en Nouvelle-Écosse. Merci à tous les trois.
Ciao!
Bye-bye.
Merci.
Merci.